Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 15 octobre, au lendemain du premier match à domicile des Canadiens de Montréal. C'est bien évidemment ce qui retient l'attention aujourd'hui, qui va retenir l'attention aujourd'hui sur le balado. On va parler de tout ça, on va parler comment on a apprécié peut-être les cérémonies, mais encore plus le match. On va parler aussi de ce qui se passe du côté d'Ottawa, on va parler un petit peu du Kraken et des Predators de Nashville, donc c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Au balado, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, bien écoutez, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister de balado. Faites une recherche, la tasse de café, vous allez nous trouver, tasse de café LNH. Mais si vous voulez nous voir, voir ce qu'on a de l'air, bien cette saison, on est disponible en vidéo. Donc allez sur YouTube, soit vous écrivez la tasse de café LNH, vous allez trouver dans la barre de recherche. Sinon, allez sur la page de la NHL, allez dans la section podcast et vous allez trouver le podcast. Vous allez pouvoir nous regarder, voir un peu ce qu'on a là quand je dis quelques niaiseries avec mes deux collègues habituels, Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Hein, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien.
Ouais, couché tard hier.
Exact. Grosse journée hier. Là, on recommence assez tôt, mais en pleine forme.
Ça arrête pas.
Je me trouvais plus rayonnant que vous ce matin.
Ben, c'est ça,
l'autre qui est avec nous. La conversation, c'était assez silencieux.
L'autre qui est avec nous aujourd'hui, Jean-François Chaumont, c'est JF.
Salut, messieurs. Mais Guillaume, ouais. C'est normal que tu sois rayonnant. Tu venais de passer 12 heures en ma compagnie. Mmh. Dans ce temps-là, je trouve toujours ton sourire plus étincelant. Sous cette belle moustache se cachent de si belles dents.
Il y a la petite voix un matin, il est fatigué.
Oui, non, j'ai la voix un petit peu croche. Ça doit être les émotions d'un premier match à domicile.
T'as trop crié, je pense.
Non, parce qu'on t'a entendu chanter, là. On a chanté avant. Toi, étant grand fan de Cire Pathétique, t'as dû te donner
non.
Pas à peu près. Là.
Moi, je salue le choix de Michael Matheson qui a choisi de rentrer sur la glace avec Mr. Brightside de The Killers.
Ouais, classique.
Mais honnêtement, c'était tellement bruyant sur la passerelle de presse. On est perché au Centre Bell, puis il y avait le mélange des applaudissements de la foule, des cris. Puis les chansons, c'était quoi? C'était à peine 10 secondes, donc ouais, c'était quand même difficile de les reconnaître. Guillaume est devenu, bon, comme un jeune adolescent de 15 ans, tout énervé quand il a entendu Cire Pathétique. Je lui donne. Mais je salue Lilia, la petite de ma copine Fanny, qui elle a reconnu Mr. Brightside et qui a immédiatement texté sa maman pour dire que c'était ma chanson. On ne comptera pas l'anecdote, mais il y a quelques fois où j'ai fait aller mon index en passant à Mr. Brightside dans un bar en Floride où il faisait chaud. Donc, un bar que les Panthers aiment beaucoup. Donc, c'est ça. Voilà, on a fait le tour pour Mr. Brightside.
As-tu déjà vu Mr. Brightside? En Angleterre, là, ils sont maniaques de cette chanson-là. Genre, elle est encore dans les palmarès puis tout ça. Mais va voir des matchs de d'or avec Mr. Brightside. Les intros qu'ils font, là, Mr. Brightside, puis il y en a un autre. Oui, des d'or, le jeu de d'or, là, carrément. Là. En Angleterre, c'est malade. Là. C'est le show de la place, c'est incroyable.
Mais faut allez que voir tu ça avec Mr. Brightside.
Comment?
Il faut que tu ajoutes un peu d'ambiance quand tu arrives pour voir un match de d'or. Donc, je peux comprendre le choix de Mr. Brightside.
Il ajoute plus que de l'ambiance, beaucoup d'alcool. Mais va voir ça, puis va voir, il y en a un autre qui rentre du titanium. Ça a l'air des gars les moins en shape de la planète, mais qui rentre sur une ambiance incroyable. Les gens allaient voir ça sur YouTube, honnêtement, ça vaut la peine. Moi, bien aimé Money for Nothing du côté de Cole Caulfield. J'ai pas eu ça. Ça partait bien. Puis on a fini ça, bien évidemment, avec Coldplay, Fixio, Nick Suzuki. Belle cérémonie quand même. Puis ce que j'ai aimé, tu sais, souvenez-vous, il y a quelques années, c'était quoi les cérémonies d'ouverture des Canadiens? C'était le flambeau, le passé, les Coupes Stanley. Puis là, je trouve qu'on regarde plus vers l'avenir. C'est qui les stars? C'est les joueurs d'aujourd'hui. C'est quoi qu'ils aiment? C'est cette toune-là, cette toune-là, cette toune-là. Je trouve que cette année, peut-être ça avait commencé par avant, mais cette année, je trouve qu'il y a un changement qui se fait dans la manière qu'on voit ce club-là. C'est plus le passé. Puis oui, il y a eu une belle cérémonie pour Ken Dryden. Ça clashait un peu les deux, peut-être. Justement, ça redonnait un peu d'ambiance dans le Centre Bell. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, mais
ben même à la fin de la cérémonie, à l'hommage à Ken Dryden, les partisans se sont mis à crier « olé, olé ». Donc, ça a vraiment fait une transition naturelle entre ce moment-là qui était plus solennel, mais quand même, on y a mis un peu d'énergie à la fin. Après ça, on a enchaîné avec la cérémonie. Puis moi, T'sais, j'étais à Ottawa lundi. Ouais, ouais, lundi pour le match d'ouverture. Puis c'était très de base. Là. C'était la présentation de chaque joueur. On s'installe au centre de la glace, on salue les partisans, puis on commence le match. Hier, j'ai trouvé qu'il y avait, t'sais, il y avait un rythme à cette cérémonie-là. L'aspect des chansons, ça faisait en sorte que tu avais hâte au prochain joueur, voir quel était son choix de chanson, même si de notre côté, sur la passerelle, on entendait plus ou moins les chansons, mais ça ajoutait quelque chose. Il y avait de l'énergie, il y avait de l'enthousiasme, la foule avait donnait de l'énergie en masse aux joueurs. Il y a Juraj Slafkovski qui nous a fait rire aussi parce qu'il est resté au centre de la patinoire pendant à peu près au moins 10 secondes de plus que ses coéquipiers. On ne sait pas pourquoi, on n'y a pas parlé. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait un suivi là-dessus, mais je pense qu'il voulait faire une petite blague avec ses coéquipiers. Donc, ça a donné le temps cette soirée-là. Puis l'ovation à Martin Saint-Louis, honnêtement, JF ouais. est là depuis plus longtemps que moi, là, mais de l'amour comme ça pour un entraîneur, c'était bruyant, c'était assourdissant l'ovation qu'il y a eu. Puis justement, j'ai écrit là-dessus hier soir, j'ai demandé à Noah Dobson, comment est-ce que vous l'avez vécu comme joueur? Il disait, on était tous dans le vestiaire, on attendait de se faire présenter, puis on a entendu la foule rugir comme ça, puis on se demandait, il y a eu un petit délai pour comprendre ce qui est en train de se passer, puis il dit, ensuite on a tout réalisé, ils viennent de présenter Martin Saint-Louis, donc la foule a vraiment embarqué dans ce spectacle-là, puis ça a été vraiment, ça a donné le temps à une belle soirée.
Non, mais j'en parlais hier avec des collègues, la réaction de la foule pour Martin Saint-Louis, moi ça m'a pas rappelé une image avec le CH, mais plus une scène avec les Expos quand on présentait Philippe Alou dans les années 90, mm-hmm. 94, la fameuse année des Expos, à quel point les partisans étaient en amour avec l'entraîneur, sans dire que c'est une histoire semblable, il y a vraiment un lien fort entre Martin Saint-Louis et la population. Mais tu sais, c'est encourageant quand tu assistes à une cérémonie d'ouverture puis tu te poses la question, quel joueur va être le plus applaudi? C'est parce que maintenant, tu as du choix. C'était pas un luxe qu'on pouvait avoir dans le passé. Oui,
Carey a souvent été.
Ben oui, c'était Carey ou c'était Piqué Souban. C'était pratiquement deux choix possibles. Mais là, hier, il y avait Ivan Demidov, il y avait Lane Hudson, il y avait Cole Caulfield, Juraj Slafkovski, comme Guillaume dit, qui n'a pas compris le code, qui reste 10 secondes sur la ligne centrale. Ensuite, Caden Gooley, Arber Jackay, qui est quand même aimé, Brendan Gallagher, Nick Suzuki. Donc, c'était intéressant, c'était bien fait. Puis, tu sais, il y a des journées où on peut être critique envers le CH, mais l'hommage à Ken Dryden, ça a été fait dans la sobriété. Mm. De voir toute la lumière sur son numéro 29, sur la bannière, sur son nom. Ensuite, le casque qui était déposé sur le dessus du filet. Honnêtement, c'est une belle touche. C'était réussi. Puis le match
ça
a pris quand... Oui, vas-y, Nick, j'écoute.
Je veux dire, les Canadiens, c'est de quoi que les Canadiens font bien, c'est les cérémonies. Là. C'est de loin les meilleurs dans la Ligue, peu importe t'es où. Il y a une créativité, puis il y a un respect de ce que c'est, de ce qu'on doit faire qui est là toutes les fois, toutes les cérémonies, ouais. Peu importe. Puis là, ça, c'est depuis longtemps, même avant... je pense depuis qu'il y avait eu le changement sous Ray Lalonde puis tout ça là, dans les années 2000, fin 2010, fin 2000 plutôt, là, ça a tout a été ça, les Canadiens. Le spectacle a tout a été bon avant le match. Des fois, ça a été plus difficile après, mais bon, ouais. avant le match, tout a bon.
Non, mais c'est ça, mais tu peux. C'est vrai que le Montréal a souvent été vu comme la mecque du hockey. On mm-hmm. va vouloir calquer qu'est-ce qui se fait à Montréal. Mais une fois que tu atteins le sommet, tu dois y rester. Ça, Martin Saint-Louis le dit, c'est pas toujours facile. Puis hier, ça ressemblait à une équipe qui restait au sommet, qui trébuchait pas. Point de vue animation, point de vue décor avant ce premier match-là. C'était réussi comme cérémonie d'ouverture.
Parlons du match maintenant. Ça a été plus... c'est un match contre le Kraken. On s'y attendait. Ça allait pas être facile. Kraken qui donne pas beaucoup d'espace. Match de ping-pong aussi. Tu voyais que les deux équipes, c'est encore un début de saison. Puis tu voyais que le Kraken n'allait pas en donner beaucoup. Vous avez pensé quoi du match, les gars?
Ben, dans l'ensemble, écoute, c'était... Vas-y, Guillaume.
Ben, ça a été un match... Le Canadien a eu des bonnes séquences en zone offensive. Tu sais, on a vu que les gros noms, les gros trios étaient en mesure de bien s'installer offensivement. On a vu des beaux flashs. J'ai remarqué que On dirait que, bon, j'avais regardé les premiers matchs à la télévision, mais en personne, cette équipe-là est rapide, mais encore plus que l'an dernier. Là, ça saute aux yeux. C'est une équipe qui impose son rythme. Donc ça, c'est encourageant. Pour le reste, au niveau des chances de marquer, des chances générées, ça a été un peu plus tranquille, j'ai trouvé. Puis c'est un match, peut-être en deuxième période, ça a connu un creux de vague, disons. Là, la première a été quand même intéressante, la deuxième, ça a laissé à désirer. Mais ce que j'ai aimé, c'est encore une fois, puis je pense que ça a été une des marques de commerce de l'équipe l'an dernier, c'est que cette équipe-là n'est jamais battue, même si elle tire de l'arrière par un but en fin de match. En plus, de cette année, on le disait quand on parlait de la présentation d'avant-match, elle a les éléments pour faire une remontée, pour aller chercher ce but-là. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence dans ce club-là. Tu sais, Patrick Laine, on peut dire ce qu'on veut de lui, est capable de la mettre dedans si on a besoin d'un but. Cole Caulfield est capable de le démontrer hier. Ivan Demidov peut faire la différence. Nick Suzuki est là. Lane Hudson. Donc, tu sais, il y a plusieurs options qui peuvent aider l'équipe à effectuer une remontée comme celle qu'on a vue hier en fin de match. Donc, somme toute, ça a été un match plutôt, je dirais, satisfaisant du côté des Canadiens.
Moi, je reprends les mots de Cole Caulfield après le match qui disait « C'était loin d'être parfait, mais on a fait le travail. » C'est exactement ça. Le Kraken, en théorie, ne représente pas une puissance dans la Ligue, mais débarquait à Montréal avec deux victoires. Ils avaient donné seulement un but contre les Ducks, seulement un but contre les Golden Knights. Donc, c'était une équipe qui était bien structurée défensivement. Le CH en marque 5. Puis encore une fois, ça vient de plusieurs trios. Hier, avant la prolongation, Nick Suzuki avait un rare match ordinaire. Offensivement, on le voyait peu. En prolongation, il obtient une passe sur le but gagnant de Cole Caulfield. Caulfield, c'est son deuxième but du match. Puis quand tu parles d'un marqueur naturel, le jeu de Caulfield en prolongation... Il y a un mini espace, c'est pas trop long. Décoche un tir pratiquement là, sur la ligne rouge des buts. Puis après le match, il m'a quand même fait rire, Caulfield, parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu attendais de voir Joey Dakar se compromettre et aller d'un premier geste? Puis il a répondu de façon laconique, non, pas vraiment. Ensuite, je lui ai dit, bon, est-ce que tu as vu le trou? Il a dit, non, pas vraiment. C'est comme si devant les caméras, il refusait de s'ouvrir. Puis quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, il était tout seul à son casier. Je lui ai reposé la question en disant, écoute, Cole, j'ai de la misère à acheter tes paroles comme quoi il n'y avait aucune stratégie derrière ce tir-là. Là, il a expliqué plus en longueur comme quoi c'est une question aussi de pourcentage. Ça, Martin Saint-Louis frappe souvent sur le pourcentage. Il dit, je peux avoir le sentiment, le feeling que oui, il va y avoir une ouverture, mais si je manque ce tir-là, il y a de bonnes chances que la rondelle frappe la bande derrière le but, puis elle retourne de l'autre côté, puis ça provoque une relance. Donc, quand même, c'est intéressant de voir qu'il prend le temps de tout analyser en quoi? Une seconde, une fraction de seconde. Mais il dit, je croyais en mes chances, j'y étais pour le tir. C'était un tir tout simplement parfait. Puis t'as Hudson aussi. Lane Hudson, je trouvais ça quand même agréable qu'il obtienne une récompense parce que tout le match, on l'a vu, Lane Hudson, tu sais, celui qui buzz avec la rondelle, celui qui danse avec la rondelle, qui patine, qui est menaçant, mais c'est sur le gros jeu de la prolongation qui obtient sa passe. Puis c'est Marc-Antoine Godin qui posait la question après le match. T'as plusieurs cartes maintenant, t'as plusieurs joueurs qui ont le talent pour dominer un match. Hier, ça a été Cole Caulfield qui a eu le but vainqueur. Ça peut être Nick Suzuki à l'occasion, ça peut être Lane Hudson, ça pourrait être Juraj Slafkovský, ça peut être Ivan Demidov. Donc, Martin Saint-Louis a beaucoup plus de ressources. Il y a du positif à cette victoire-là, mais il y a encore des questions sans réponse. À 5 contre 5, je ne veux pas être trop sévère, mais le trio de Jake Evans, Josh Anderson, Patrick Laine. Laine, par contre, coup de chapeau pour sa passe sur le but de Demidov là, à la fin d'une supériorité numérique. Mais je trouve que Evans, Anderson, Laine, c'est un trio qui cherche beaucoup. Puis on a vu Martin Saint-Louis en troisième période qui a commencé à brasser ses cartes au niveau de ses effectifs. Question de trouver une piste, une solution.
Tu sais, d'un côté, t'as ces deux-là qui ont de la misère, Evans puis Anderson, en jouant avec Laine. Puis t'as Gallagher qui, lui, semble rajeuni sur son nouveau trio, alors que les trois, ça fonctionnait vraiment bien l'année dernière. Ça dit un peu aussi à quel point Gallagher, par son style de jeu, par sa hargne, est capable de driver une équipe, driver une ligne, ce que Laine ne peut pas faire, il ne réussit pas à faire. Puis oui, effectivement, belle passe hier. Tu sais, Laine, là, est-ce que vous êtes d'avis qu'il va quand même falloir être patient avant de tirer des conclusions dans son cas?
Bon, je pense qu'on sait exactement à quoi s'attendre maintenant. Là, je pense pas, je m'attends pas à une éclosion de la part de Patrick Laine d'ici la mi-saison ou la fin de la saison. Là, je pense qu'on sait exactement ce qu'on va obtenir de Patrick Laine. Maintenant, c'est de trouver.
Il n'y a pas un plafond plus haut. Il semble qu'il y a des bouts l'année dernière, ben, je le voyais. L'année dernière, il y a des bouts, je le voyais meilleur que ça.
Ouais, mais honnêtement, je le trouve meilleur qu'il était à la fin de la saison dernière, depuis le début de la saison. Là, c'est sûr qu'il y a des séquences.
Puis j'ajouterais, je l'ai trouvé meilleur hier que dans les premiers matchs de saison.
Ouais, tu sais, il y a eu une séquence, je pense, puis après ça, ça lui a valu de rester au banc pendant quelques présences. Il a fait un revirement à zone neutre en troisième période. Vers la fin de la troisième période. Mais je pense que c'est ça. C'est une question de trouver dans quelle chaise on le place à 5 contre 5, puis quel rôle on lui donne. Est-ce que Martin Saint-Louis peut se mettre, comme il a fait en fin de match hier, jongler avec ses trios pour lui faire sauter une présence une fois de temps en temps quand on a besoin vraiment d'une présence plus défensive? Ça peut être une option, mais je pense que le Canadien, c'est exactement ce que Patrick Laine va lui donner. Après ça, ça va être de faire le choix. Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on le garde dans la formation pour ce qui peut nous amener en avantage numérique? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions par rapport à lui, mais je ne m'attends pas vraiment à une révélation dans les prochains matchs. Là. Je pense que
je crois pas qu'il y ait de baguette magique non plus que Patrick Laine. On parle quand même d'un joueur qui en a sa 10e saison dans la Ligue nationale. On connaît son ADN, on connaît son identité. Hier, je regardais son temps de jeu contre le Kraken de Seattle, 10 minutes 43 secondes. Donc, à 5 contre 5, il faut trouver des façons de le cacher, entre parenthèses, pour qu'il soit le moins dommageable possible. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a plus d'efforts dans son jeu. Il y a un petit peu plus d'angle qu'en fin de saison l'an dernier. Il est en santé cette saison. Donc, s'il peut donner de bonnes présences en supériorité numérique, il ne faut quand même pas oublier que l'an dernier, il en a marqué 15 en avantage numérique en une demi-saison, un petit peu plus qu'une demi-saison. C'est un gars qui a un tir foudroyant. Mais j'ai hâte de voir la dynamique de ce trio-là à moyen terme. Evans et Anderson, l'an dernier, ont tellement donné de bons services à cette équipe-là, surtout dans des rôles défensifs contre les bons trios des équipes adverses. La journée que tu tombes contre une équipe qui mise réellement sur deux ou trois bons trios, est-ce que tu peux rouler de la même façon tes lignes? Ça risque de devenir problématique. Evans et Anderson ont une valeur au sein de cette équipe-là, puis j'ai le sentiment que parfois, 5 contre 5, ils sont ralentis par Patrick Laine. Puis vous avez raison, Gallagher a donné un élan aussi à son trio. T'sais, Kirby Dack, on n'en parle pas beaucoup depuis le début de l'année. C'était la même chose depuis au camp d'entraînement. Mais c'est un gars qui donne quand même des réponses rassurantes, semble revenir sur un bon chemin après deux opérations. Zachary Bolduc et Gallagher aiment bien jouer ensemble aussi, mais ça reste un début de saison. Il y a 4 matchs. On va continuer de faire les expériences. Puis on voit aussi Oliver Kapanen, les deux premières rencontres, il était tout feu, tout flamme. C'était prévisible aussi que ça c'était pas pour maintenir la même cadence toute l'année. Je l'ai trouvé plus discret dans les deux derniers matchs à Chicago puis contre le Kraken.
Y avez-vous parlé à Dak pour lui demander, tu sais, est-ce qu'il est pas frileux, là, c'est pas le bon terme, mais tu sais, toujours un peu inquiet quand il y a du contact, quand il y a des contacts physiques pour un joueur qui a été blessé aussi souvent? C'est quelque chose qui revient dans la tête un peu?
Ben ça, il n'en parlera pas ouvertement, mais ça peut rester dans le fin fond de ta pensée. Et Dak, c'est il y a parfois un côté méchant, mais on dirait qu'il faut qu'il y ait de l'animosité dans un match pour que ce côté-là ressorte.
Un petit peu comme Slafkovski.
Ouais, t'as besoin d'un petit peu de gaz. Mais écoute, tant si longtemps que le genou tient, je trouve pas qu'il a peur d'aller dans le trafic ou d'aller dans la circulation. Son but d'ailleurs contre Seattle, bien, il se pointe le nez juste devant le filet. Il va à un endroit où techniquement ça peut faire mal. Puis, bon, il dévie. J'ai toujours de la misère à voir comment il dévie cette rondelle-là de Noah Dobson. Est-ce que c'était avec le patin? Est-ce que c'était avec une jambe? Est-ce que c'était avec le bout de son bâton? On dirait que c'est pas clair.
C'était avec le corps en général,
ouais. Mais il était à bonne place, grosso modo. Il était à bonne place au bon moment pour obtenir un but.
Tu sais, hockey sur table, là, tu marquais un peu de même aussi. Là, touchait par volet. Après ça, le bonhomme, il était complet. Là.
Mais
c'est
non,
un
mais
grand bonhomme fixe.
Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Là.
C'est l'ailier gauche qui tournait tout le temps mal aussi. Là.
Ouais, ouais, t'es pogné un peu sur le côté, puis il mordait dans la table, là, je te suis.
Mais pour revenir au hockey, je suis très d'accord avec
c'était
GF.
C'était du hockey. Voyons, donc, du hockey sur table. Un peu de sérieux, Guillaume. Tu sais, les tables pas... Super Checks, là. Non, mais tu sais,
ouais,
vous savez,
j'ai,
les tables
j'ai eu ça avec les okay. bâtons. Il okay. y en avait tout le temps un ou deux de brisés, là.
C'est
puis,
ça, c'est ça. Mais oh, j'étais allé en vacances cet été au Mexique avec ma conjointe, mon enfant. Puis on en va, il y avait des arcades au resort où on était. Puis il y avait une table Super Checks. Tu sais, les meilleures tables, ceux que tu retrouvais dans les cages au sport dans le temps. Là, dans le temps
avec le dôme aussi?
Oui, avec le dôme. Okay. Tu sais, dans le temps, les cages au sport, il y avait l'avion, puis le basketball, si tu pouvais te faire ça. Alors que je jouais avec mon gars avec ça, puis ma blonde, elle dit, c'est beau, elle dit, ça en prendrait une à la maison. J'ai regardé, j'ai dit, c'est 3000 piastres. Elle dit, OK, on va laisser faire. On va aller jouer dehors. Hey, tu disais, Guillaume, je t'ai coupé.
Non, non, je parlais de 4GF a dit j'ai pas l'impression que Kirby Dack a peur. Là. Tu sais, moi, je trouve qu'il joue avec beaucoup de vitesse. Il n'hésite pas à faire des entrées de zone à pleine vitesse, d'aller dans le coin, de contourner. Fait que, honnêtement, s'il pense, ça paraît pas tant que ça sur la patinoire. Okay. Fait que pour ma part, c'est un début de saison quand même encourageant du côté de Kirby Dack. Puis ce trio-là, comme vous avez dit. Je suis pas prêt à enlever ce petit bonbon-là à Brendan Gallagher tant qu'il en donne comme ça mm-hmm. pour le retourner sur un trio défensif parce que même à son âge, le doyen de l'équipe est en train de démontrer qu'il y a quand même encore certaines aptitudes offensives. Tu sais, je pense que c'est pas tant au côté... Oui, il y a le talent, là, mais de la façon dont il travaille, ça va lui permettre de générer des chances offensivement. Puis en jouant avec Dak et Bolduc, ben, pour l'instant, ça fonctionne.
Et vous trouvez que c'était le meilleur match d'Ivan Demidovia? Depuis le début de la saison?
Oui, dans l'ensemble, oui. Là, les autres matchs, on dirait qu'il y a eu des petites étincelles ici mm-hmm. et là, sans que ce soit complet. Hier, dès le début de la rencontre, tu le sentais là, retrouver son aisance sur la glace. Il obtient une passe parfaite sur le but d'Alex Newhook. Là, Newhook avait juste à garder son bâton sur la patinoire, puis c'était un but. Son jeu aussi, après la passe de Patrick Laine en troisième période, c'est un gars de talent qui marque un tel but. Là. Il est quand même sous pression, mais il attend, décoche un tir du revers dans le haut du filet. Puis ce que j'aime avec Ivan Demidov, c'est pas un joueur vers qui on peut se tourner souvent pour les entrevues. Là. C'est normal, il y a encore une barrière de la langue. Il ne parle pas à tous les jours, tous les deux jours. Mais après l'entraînement matinal au Centre Bell, on lui avait posé la question... Comment tu décrirais ton début de saison? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'inquiétude sur le plan offensif? Puis il a tout simplement répondu, ça viendra. Il dit, il y a 3 matchs de jouer, ça viendra. Puis je trouvais que pour un jeune homme de 19 ans, il dégageait une confiance, pas une arrogance, mais une confiance en ses moyens. Puis le soir même, c'est là qu'il redevient le Ivan Demidov qu'on connaît. Un but, une passe contre le Kraken. Puis, il ne faut pas oublier, il ne joue pas non plus sur un trio avec 2 munitions offensives où tu peux partir puis être convaincu que soir après soir, tu vas avoir de bonnes performances. Il reste avec Alex Newhook puis Oliver Kapanen. Mais tu sais, jusqu'à présent, on dirait une bouchée à la fois. Il n'y a pas un temps de jeu. C'était quoi hier? C'est 14 minutes. Donc, on ne tombe pas dans le 16, 17, 18 minutes. Je crois qu'on va y aller une étape à la fois. Puis je serais pas surpris qu'après une vingtaine de matchs, Demidov tourne plus autour du 17 minutes par rencontre que du 14 ou du 13.
C'est que c'est pas des grands joueurs talentueux d'élite offensive qui sont avec lui, mais je pense que la vitesse de Newhook puis
ouais.
le fait que
l'intelligence
reste en arrière,
ça permet d'avoir un équilibre. C'est vraiment quelque chose que Martin Saint-Louis recherche cette saison. Il l'a dit plusieurs fois qu'il veut voir une équipe qui attaque avec plusieurs vagues. Donc, quand tu as Demidov au sein d'un troisième trio, mais tu as une profondeur intéressante à l'attaque.
Fiche de 3-1 après 4 matchs pour le tricolore. Bon, si on avait dit ça au début de la saison, je pense qu'on aurait été très heureux du côté des Canadiens. Ça nous place absolument où on veut, c'est-à-dire en séries éliminatoires. Vous tracez quoi comme bilan après ces 4 premiers matchs dans les facettes qui avaient plus de questions? Le désavantage numérique, entre autres, l'avantage numérique, le deuxième avantage numérique, le Demidov, on vient d'en parler. C'est quoi votre bilan après ces matchs-là?
Ben, je pense que le bilan, c'est... En ce moment, pour ma part, on voit quand même 4 trios équilibrés. Un point d'interrogation, puis on en parlait hier avec GF, c'est en défensive. c'est le joueur qui est peut-être, et les partisans n'aiment pas ça quand on le vise, là, mais Harbert Jacquet, qui est peut-être un peu en marge de ce bon début de saison collectif-là. Hier, il a été pris en défaut 3 fois sur 4 buts. Il était sur la glace sur 3 des 4 buts du Kraken. Il a passé les 12 dernières minutes de la rencontre à réchauffer le banc après l'erreur qui a mené au 4e but du Kraken, là, la tentative de passe à Ivan Demidov qui s'apparentait à un slap shot en plein centre de la patinoire, là, mais je pense que collectivement, tout le reste, ça va, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais du côté d'Harbert Jacquet, je me demande si au prochain match, on ne pourrait pas voir Jaden Struble faire son entrée dans la formation. Parce que oui, il y a l'élément robustesse et tout ce qu'Harbert Jacquet amène, mais on dirait que dans l'identité de cette équipe-là, dans la façon de jouer, ben peut-être qu'il correspond un peu moins à ça, parce que c'est une équipe qui joue rapidement et tout ça, il faut prendre des décisions rapides. Harbert Jacquet, parfois, a de la misère à prendre la bonne décision quand il est sous pression, quand on lui demande de jouer rapidement. Donc, pour moi, après ces matchs-là, le seul point d'interrogation, je suis sûr que les entraîneurs des Canadiens veulent améliorer beaucoup de choses, mais le gros point d'interrogation pour moi, c'est Harbert Jacquet après 4 matchs.
C'est un bon point de la part de Guillaume. Là. C'est vrai que Jacquet, ça reste du jeu quand même chancelant. Puis, tu regardes la scène du but contre Jared McCann où il se retrouve sur la patinoire. C'est une rondelle qui est pratiquement près des patins d'Harbert Jacquet. T'as McCann qui fonce au filet, qui réussit à décocher un tir. Ce but-là me faisait penser au but de Calais Hancock des Maple Leafs où, encore une fois, Jacquet n'est pas capable de décider entre est-ce que je saisis mon homme, est-ce que je l'empêche de tirer. Donc, on dirait qu'il y a une hésitation. Puis, une hésitation, mais ça te permet de donner une fraction de seconde de plus à un rival. Résultat, la rondelle se retrouve derrière Samuel Montembeau. Tu parlais d'un bilan, il y a d'autres. On regarde le côté plus sombre, si on veut, de la défensive en parlant d'Harbert Jacquet, mais les deux premiers duos, Michael Matheson, Noah Dobson, jusqu'à présent, c'est très concluant ce qu'on voit après 4 matchs. Martin Saint-Louis disait que Michael Matheson joue du hockey tout simplement, là, formidable depuis le début de la saison. Quand il l'envoie sur la patinoire, il n'y a aucun doute dans son esprit. Il couvre beaucoup de territoire. Il sait qu'il va réaliser les bons jeux. Ensuite, Kellen Gooley et Lane Hudson comme deuxième paire à la ligne bleue. Ça reste 2 bons défenseurs, 2 gauchers, mais ça fonctionne quand même pour l'instant. Puis, après 4 matchs, de voir cette équipe-là avec 3 victoires, tu regardais le calendrier. Mis à part les Maple Leafs, ça restait des équipes prenables. Ouais. Les Red Wings, ensuite les Blackhawks, le Kraken, les Prédateurs débarqueront à Montréal jeudi soir. Dans le passé, des fois, cette équipe-là trébuchait contre des équipes, entre parenthèses, plus faibles, mais il faut que tu gagnes ces matchs-là. Ça n'a pas été parfait de A à Z, mais une fiche de 3 victoires et 1 défaite, 6 points sur une possibilité de 8, quand tu considères qu'il y avait 3 matchs loin de Montréal, c'est quand même un très, très bon résultat pour le tricolore.
Oui, mais là, tes 3 prochains matchs aussi sont à domicile. Les Canadiens, leurs 13 dernières rencontres à domicile, c'est une fiche de 11-0-2. Ça s'explique-tu, ça? Avez-vous l'impression que ça va se terminer à un moment donné, cette séquence-là, sans défaite en temps réglementaire, ou quand vous regardez ce qui s'en vient?
Oui, ça va s'arrêter, ça va mais ça reste que le Centre Bell. Les autres équipes ne diront pas que c'est un environnement intimidant, mais c'est tellement bruyant, puis tu sens une passion de plus en plus grande des partisans vers cette équipe-là. Si c'est possible qu'elle devienne plus grande, cette passion-là. Mais après le but d'Ivan Demidov, c'était bruyant, mais vraiment bruyant. Michael Matheson disait après le match qu'il croit que c'est peut-être les 5 ou 10 secondes les plus assourdissantes qu'il a pu entendre au Centre Bell. Donc, les équipes adverses aiment jouer à Montréal parce que, justement, il y a de la vie dans cet édifice-là, mais le CH n'est plus un rival aussi facile qu'il l'était dans les 3, 4, 5 dernières saisons.
Prochain adversaire, les Predators, justement, qui s'amènent à Montréal jeudi. Guillaume, tu es allé visiter Predators à Ottawa quand ils ont affronté les Sénateurs lundi. Tu as rencontré Jonathan Marchessault. Bon, on s'attend à quoi des Predators cette année? Marchessault s'attend à quoi de lui aussi? Pour cette équipe-là qui a tellement déçu l'année dernière malgré de nombreuses acquisitions.
Ben justement, ça tend pas. Je pense que le mot d'ordre du côté des Predators, c'est de ne pas se mettre d'attente cette année comparativement à l'an dernier. Là, Jonathan Marchessault disait l'an dernier, tout le monde nous plaçait en série, puis nous voyait même faire un long bout de chemin avec toutes les acquisitions là, de l'entre-saison. Lui est arrivé dans l'équipe, Brady Shea est arrivé dans l'équipe, Steven Stamkos, on disait, bon, les Predators font l'acquisition de vétérans qui sont encore dominant. Finalement, ça ne s'est jamais matérialisé. Donc, cette année, Marchessault dit on se place aucune attente, on y va un match à la fois. Le noyau reste le même. On a greffé des jeunes joueurs. Brady Martin est encore avec la formation. On a Joachim Kemmel qui commence à jouer de façon régulière. Zvechkov aussi.
Ouais,
Fedor Zvechkov qui est dans la formation. Donc, on greffe des jeunes à cette équipe-là de vétérans. Je vais demander à Jonathan, est-ce que toi, comment tu vois ça? Tu sais, l'orientation de l'équipe, est-ce que c'est une équipe qui est en semi-reconstruction, qui vise les séries, il dit honnêtement, je me pose pas trop de questions avec ça. Je connais mon rôle, je veux produire, je veux aider l'équipe à gagner, puis c'est tout ce qui importe du côté de Marchessault. Donc, c'est quand même intéressant de voir qui est. Tu sais, comment ça la saison à l'aile d'un troisième trio avec Eric Ola ouais. et Michael Bunting. C'est pas un trio qui est particulièrement offensif. Tu sais, pour un joueur qui a joué avec des joueurs talentueux à Vegas pendant tant de saisons, de se retrouver dans ce rôle-là, on peut se poser des questions. Mais Andrew Brunette, je lui ai posé la question à savoir, est-ce que le rôle de Marchessault change avec les années? Est-ce que tu t'attends encore à ce que ce soit un joueur offensif? Puis il dit, honnêtement, c'est l'équipe de Jonathan Marchessault. Il dit, depuis le jour 1 du camp d'entraînement, il est arrivé avec le couteau entre les dents, puis il montre la voie à suivre aux jeunes, il montre la voie à suivre à tous les vétérans. Donc, on a l'impression qu'il veut justement éviter, là, renverser la tendance, renverser la vapeur après une saison de misère. Donc, Jonathan Marchessault qui semble avoir pris cette équipe-là sur ses épaules, mais bon, hier, c'est une défaite de 7-4 face aux Maple Leafs de Toronto. Première défaite en temps réglementaire pour les Preds. Donc, on va s'amener à Montréal dans l'espoir de mettre fin là, à cette. De pas se mettre à perdre plusieurs matchs de suite parce qu'on met l'accent surtout sur le début de saison parce que l'an dernier, ça avait été plutôt difficile.
Ouais, tu regardes présentement, ils seraient en série. Il est jeune, là, la saison est jeune, là, mais tu regardes cette équipe-là, puis ça va vraiment passer les chances de rebondir, puis de peut-être participer aux séries éliminatoires-là. Ça va passer par Marchessault Stamkos, qui l'année dernière, ça n'a pas fonctionné pour les deux. Ça va prendre Juuse Saros, qui doit rebondir. Ça fait quelques années qu'il est en descente. Puis Roman Josi aussi, là, qui doit redevenir, qui peut. Le défenseur qui était il y a 2 ans à peine, quoi, il avait fini, je pense, avec 90 quelques points là, il y a quelques années. C'est une équipe qui a tellement planté du nez rapidement que je me demande si elle n'est pas capable de rebondir aussi rapidement. Mais
tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu espoir, hein, parce que
si
tu regardes cette équipe-là, c'est pas si différent de ce que c'était l'an dernier. Puis l'an dernier, à la même période, on les plaçait en série. Donc, est-ce que c'est possible? Peut-être. Tu dis, Marchessault, ça n'a pas été facile l'an dernier. Je lui ai un peu amené ce point-là au niveau de sa production. Tu sais, c'est un joueur qui arrivait de Vegas avec. Il avait inscrit 42 buts, je crois. L'an dernier, c'était seulement 21. Donc, je lui ai dit, tu sais, ça a un peu moins bien fonctionné. Il a rétabli un peu les faits. Tu sais, lui est d'avis que offensivement, il s'est tenu autour des 60 points. Il dit, c'est mon objectif pas mal à chaque saison. J'ai compter moins de buts que j'ai fait que j'en ai fait à Vegas, mais il dit j'étais dans une situation où je devais davantage passer la rondelle, tandis qu'à Vegas, il se faisait alimenter par ses coéquipiers. Là, il dit il a fallu que je change un peu mon style, mais au niveau de la production, il est vraiment tenu à dire que pour lui, c'était pas une saison nécessairement décevante, surtout dans une équipe de fond de classement qui n'a pas connu, disons, les succès offensifs rêvés. Là. Donc, juste remettre ça en perspective, de son côté, c'est pas une mauvaise saison. Collectivement, oui, mais personnellement, il est d'avis que ça s'est plutôt bien déroulé pour une première saison dans une nouvelle équipe.
La bonne nouvelle, s'il y en a une pour les Prédateurs, c'est qu'ils peuvent plus surprendre que décevoir après une saison aussi misérable que celle de l'an dernier. Mais ça reste que c'est un noyau qui est vieillissant, contrairement à d'autres équipes, surtout si tu compares avec ce qu'on voit à Montréal, ce qu'on peut voir avec les Sénateurs d'Ottawa. Ryan O'Reilly, ce n'est plus un jeune joueur. Même chose pour Steven Stamkos, même chose pour Roman Yossi. Donc, il y a probablement de l'usure au sein de cette équipe-là. Mais il y a aussi de la fierté. Marchessault en est un. Je ne crois pas qu'ils veulent revivre une saison aussi difficile que celle de l'an dernier.
Non, ça c'est sûr. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Jeudi, les Rangers aussi qui vont être à Montréal. Samedi, dans la fois, je regardais le calendrier. Les quatre prochains adversaires des Canadiens, c'est des clubs qui ont manqué les séries l'année dernière. Donc, si la tendance se maintient, on pourrait avoir une excellente fiche là, quand tout ça va être terminé, ces quatre matchs-là. Avant, ben, c'est un voyage la semaine prochaine, les Canadiens qui vont être du côté de l'Alberta pour un duo Flames-Oilers. Donc, puis après ça, on termine avec les Canucks. Mais là, on va avoir un autre balado d'ici là, on pourra en parler à ce moment-là. Les gars, on vient
loin, le Nick. Il faut rester dans un moment présent.
C'est ça, je donne présent. On vient justement parler de présent, ce qui s'est passé dans les derniers jours chez les Canadiens. Le stylo s'est fait aller parce que trois gros contrats même, devrais-je dire. On va commencer avec celui de Lane Hudson qui s'est entendu avec les Canadiens pour 8 ans, montant de 8,85 millions par année. Les gars, avez-vous été surpris du montant? Avez-vous été surpris du dénouement? On entendait que les négociations, ça achoppait. On s'était donné une pause. On n'était pas certain de où ça s'en allait. Peut-être qu'on allait laisser passer quelques matchs. On voyait un Lane Hudson qui était... Tu sais, son début de saison n'était peut-être pas à la hauteur des attentes, en tout cas pas à la hauteur des siennes. Puis là, pouf, ça s'est réglé d'un coup. Êtes-vous surpris de ce dénouement-là?
Surpris, non, parce que quand il commence à y avoir des fuites sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels, c'est signe qu'il y a des négociations, qu'on se parle. Lane Hudson le dit, ça commençait déjà à le chicoter un petit peu. Tu sens qu'il voulait régler ce dossier-là plus tôt que tard. Kent Hughes était très clair en disant « Notre objectif, c'était d'en arriver à une entente avant le début de la saison. Question d'effacer toute forme de distraction possible. » Il dit « Finalement, on est en retard de 3 matchs. C'est loin d'être catastrophique. » Le montant, par contre, et la durée, 8,85 millions pour 8 saisons. Première réaction, je m'attendais à voir un plus gros chiffre. Je croyais que 9,5, c'était pratiquement la base des négociations, soit le salaire annuel de Noah Dobson. Mais ça, à ce sujet-là, Kent Hughes nous rappelait, il faut toujours faire attention, Noah Dobson, on parlait d'un troisième contrat, on devait acheter plus d'années d'autonomie complète. Ça restait un animal différent quand on signe un deuxième contrat. Mais écoute, c'est une organisation qui vend le principe de peut-être accepter de laisser un petit peu d'argent pour le bien collectif, pour le bien de l'équipe, pour avoir une santé financière à long terme. Puis quand tu considères qu'un joueur talentueux comme Lane Hudson va manger environ 8,5% de l'enveloppe salariale l'an prochain avec un plafond qui est calculé à 104 millions, projeté à 104 millions, mais écoute, c'est pas une équipe qui s'étouffe non plus. On ne tombe pas dans les erreurs comme les Maple Leafs de Toronto et Kyle Dubas où on donnait du 13-14% de l'espace salarial à John Tavares, à Austin Matthews, à Mitch Marner à l'époque. Et surtout, Matthews, Marner signaient des contrats qui étaient de plus courte durée. On n'y allait pas pour le maximum permis. Donc, Kent Hughes, c'est un fin négociateur. C'est un ancien agent de joueur. C'est quelque chose de dire de vendre un concept, mais de voir que les joueurs l'achètent à ce point-là. Nick Suzuki le disait, il dit « On veut être bien payé. On veut gagner un salaire à la hauteur de notre talent et à la hauteur du marché, mais il n'y a personne qui veut faire sauter la banque. » Donc ça, c'est une distinction quand même très importante.
Ça en dit gros, c'est la culture d'équipe qui a été instaurée autant par Jeff Gorton puis Kent Hughes, mais aussi Martin Saint-Louis, où il y a ce côté de sacrifice-là pour l'équipe qu'on voit vraiment, mais vraiment pas partout. Puis je veux dire, dans tous les sports, même pas, là, je veux dire, c'est quel pourcentage des équipes de la Ligue que vous voyez avec ce côté-là de se sacrifier Tu sais, les Canadiens ont un avantage aussi que d'autres équipes n'ont pas. Ils sont capables de vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions dans le début du contrat. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu places ça, ça fait des intérêts, puis tout ça, il y a moyen un peu de... Tu sais, si les Panthers ont un avantage au niveau de la taxe, là, des impôts, les Canadiens, vu que les revenus sont pas mal plus élevés, on a les moyens de faire ça aussi. Donc, tu sais, je pense vraiment qu'on trouve... une façon de s'en tirer qui est vraiment intéressante chez Jeff Gorton, chez Kent Hughes, qu'on voit pas partout ailleurs. Ouais, vas-y.
Faut pas oublier que maintenant, on peut vendre aussi l'aspect hockey. On peut dire, tu peux apprendre moins, mais tu vas jouer dans une équipe gagnante. Là. Tu regardes la structure salariale.
Tu sais, l'argent va à qui, surtout? Prends-en un peu moins, mais on va la donner à Lane. On va la donner à Zachary qui vient d'arriver, Boduc. On va la donner à Demidov tantôt. C'est vraiment...
Exact.
C'est des joueurs... Tu sais où s'en va cet argent-là. Là.
L'attrait de Montréal est rendu très, très grand, je crois. Le mot s'est passé à travers la Ligue. L'an dernier, en série, on a vu c'était quoi de jouer dans une ambiance complètement folle à Montréal, dans une équipe qui connaît des succès. Tu regardes la structure salariale, je pense que on a souvent parlé de plan quinquennal à Montréal, de plan sur 5 ans. Il y en a eu une panoplie. Maintenant, tu regardes Nick Suzuki est sous contrat jusqu'en 2030, je crois. Je pense que la fenêtre est assez claire. D'ici 5 ans, on veut être une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. Le noyau est sous contrat. T'sais, ça va commencer justement, les renégociations vont commencer à partir de 2030 quand Suzuki va arriver à l'échéance de son contrat. Donc, on tasse les distractions de côté. Tout le noyau est sous contrat. Il va rester Demidov, peut-être Bolduc éventuellement.
Michael Matheson.
Il va y avoir des décisions à prendre. C'est certain, des décisions importantes à prendre dans les prochaines années, mais l'essentiel de la chose est sous contrat pour au moins les 5 prochaines années. Donc, on ouvre la fenêtre pour les 5 prochaines, puis on se dit, garde, tu peux demander plus, mais voilà notre plan. D'ici 2030, on veut être une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Si tu veux faire partie de ça, nos exigences sont ça. On considère que tu sais, je pense pas que Lane Hudson, oui, c'est un rabais, mais je pense pas qu'on peut dire qu'il est pas payé à sa juste valeur. Là, on trouve le juste milieu vraiment entre la valeur du joueur et peut-être le sacrifice qu'on veut faire pour l'équipe. Puis on a vraiment, du côté de Kent Hughes et Jeff Gorton, on a tous les éléments pour vendre notre plan aux joueurs de cette équipe-là, puis ça fonctionne à merveille pour l'instant.
Mais c'est quand même un bon rabais, parce que tu regardes ce qu'on avait signé. Je veux dire, il a gagné Calder, là. C'est pas rien, là. Puis tu regardes un peu ce que quoi, Suzuki avait signé pour combien, là, son premier gars. Caulfield avait signé 7,8 millions, puis ça, c'était, il y a 3 ans environ? Il y a 3 ans, il y a un rabais majeur, mais avez-vous senti, pas Caulfield, mais avez-vous senti Hudson beaucoup plus libéré hier quand vous y avez parlé et tout ça?
Ben, libéré, c'est un grand mot, mais écoute, oui, il y a une forme de liberté d'esprit, surtout là, c'est un dossier qui est réglé. Puis c'est quand même rare que tu entends que c'est un joueur qui demande à parler à un DG en plein blitz de négociation. Donc, c'est un signe que. Il pensait, c'était derrière sa tête. Puis lui, il a rappelé à Kent Hughes, bien, ultimement, je veux jouer à Montréal. Il a également rappelé à ses agents, ultimement, je veux jouer à Montréal. Donc, est-ce qu'on peut s'organiser pour s'entendre rapidement? Mais tu sais, tantôt, on a parlé de chiffres. Il y a aussi John Sedwich, qui est l'expert des comptables, si on veut, de la convention collective. Il y a moyen de trouver des façons pour que ce contrat-là devienne plus attirant, même si on regarde uniquement la moyenne salariale, 8,85. Ça reste qu'à Montréal, c'est une équipe assez riche qui ont le luxe de dire, ben moi, je vais te donner un énorme boni à la signature.
C'est ça.
11 millions, mais ça fait en sorte que cet argent-là peut fructifier plus rapidement. Je ne suis pas un expert comptable ou quoi que ce soit, mais il y a aussi l'avantage... Lane Hudson, ça c'est Renaud Lavoie qui a écrit un article à ce sujet-là. Lane Hudson est un travailleur étranger au Canada, c'est un Américain. Donc, il y a possibilité pour lui de placer de l'argent dans un compte de retraite qui est en fiducie et surtout à l'abri d'une imposition. Donc, il y a toujours des entourloupettes pour faire en sorte que ce montant-là d'argent devienne un petit peu plus attrayant. Mais ça, c'est de bonne guerre. Toutes les équipes le font. Combien de fois qu'on entend le discours que pour les équipes au Québec, l'équipe au Québec, les équipes en Ontario, il y a trop d'imposition, ça devient difficile. Bien, ça demande aux personnes qui dirigent cette équipe-là de devenir plus ingénieux. Je crois qu'ils ont réussi à le faire avec le dossier Lane Hudson.
En tout cas, le plan, le blueprint qu'on dit en anglais, là, est vraiment installé pour les prochaines années. Parce que là, il va y en avoir d'autres joueurs qui vont se mettre à regarder vers Montréal, à être intéressés. Tu veux sauter dans ce bateau-là qui est en marche, puis tu sais exactement, tu sais un peu, parce que ça va se parler. Là. Quelqu'un qui veut s'en venir à Montréal, il va parler à Nick Suzuki, bon, je m'attends à quoi? Bien, attends-toi à ce que tu en prennes un petit peu moins si tu veux t'en venir. C'est sûr qu'il va y avoir ces discussions-là pour... Un joueur autonome, bon, le marché des joueurs autonomes, je ne sais pas vous autres, là, on dirait que moi, chaque année, j'y fais de moins en moins confiance, mais peut-être plus un pour s'améliorer, les confiances pour s'améliorer, mais peut-être un trade and sign, là, comme un échange suivi d'une signature suivi d'un échange. C'est un peu comme ce qui est avec Mitch Marner aussi. Là.
Mais ça donne plus de marge de manœuvre. Donc ça, il n'y a pas de doute que pour Kent Hughes, pour Jeff Gorton, si tu convaincs tes joueurs de peut-être accepter un 5-10% de moins que la valeur sur le marché, mais en bout de piste, tu peux avoir plus d'argent dans le portefeuille pour séduire un joueur autonome ou pour y aller d'une transaction. Mais ça, on sait que ça reste, ils l'ont dit, quand viendra le temps, ils bougeront, mais c'est pas obligé d'arriver demain matin. Il n'y a pas une urgence de ce côté-là.
Kent Hughes a quand même ouvert la porte, je pense que c'est dans son point de presse après la signature du contrat de Lane Hudson. Il a quand même dit, si on a à surpayer éventuellement sur le marché des joueurs autonomes, ben on va être dans une bonne posture pour le faire parce qu'en raison de la hiérarchie salariale de l'équipe. Tu sais, fait, ça donne des options. Puis si tu n'es pas capable de convaincre un joueur autonome de prendre moins d'argent, ben tu peux te dire, regarde, on va sacrifier 1 ou 2 millions parce qu'on a quand même une bonne structure salariale déjà en place. Fait que ça donne cet outil-là. Tu sais, tu regardes les prochaines années, les joueurs autonomes, je ne sais pas qui s'en vient sur le marché, mais au moment où on va avoir besoin de ce joueur top 6-là, s'il demande 8-9 millions, ben on est en position de lui offrir sans faire les fous, là, mais ça donne quand même, une belle marge de manœuvre à Kent Hughes, puis c'est tout à son honneur depuis qu'il est arrivé, il bâtit ça de façon assez spectaculaire, merci. Puis le Canadien risque d'en récolter des fruits là, dans les prochaines années.
Est-ce pas un hasard aussi si les deux hommes, Gorton et Hughes, ont écrit leur nom au bas d'une prolongation de contrat de 5 ans?
C'est ça.
Il restait une saison au contrat de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Jeff Molson vient d'en ajouter 5 autres. Donc, on va parler d'un règne de pratiquement 10 ans. C'est quand même très long dans l'univers LNH, mais ça peut toujours prendre fin plus tôt. Là, ça, on connaît aussi la réalité du sport professionnel. Mais ça reste, ils ont fait un bon travail. J'ai aimé aussi le message clair dès le départ, dès l'arrivée de Jeff Gorton. Gorton avait connu des reconstructions avec les Bruins de Boston, avec les Rangers de New York. Ça a été établi dès le jour 1. Que le CH se lançait dans une reconstruction, ça demandait de la patience, mais un plan aussi. Puis ce plan-là, on en a souvent parlé au balado, mais ils n'ont pratiquement pas dérogé du plan. Non, ils l'ont toujours suivi. Ils n'ont pas cherché à tricher. Ils ont eu de bons choix repêchage, des choix où ça n'a peut-être pas été des circuits non plus, mais l'équipe est clairement sur la bonne voie. Puis hier, il y a Jeff Molson qui s'est entretenu avec les médias là, à 17h30, soit un petit peu plus d'une heure avant le match. Puis la question a été posée, est-ce que cette prolongation de contrat-là aussi, ça démontrait qu'il y avait peut-être une petite crainte de perdre Jeff Gorton? On sait que son nom circulait dans certaines rumeurs à l'époque. Puis Molson a été clair en disant, oui, c'est vrai qu'on a entendu le nom de Jeff Gorton revenir ici et là, mais il dit jamais j'ai douté ou j'ai eu peur ou quoi que ce soit. Jeff Gorton a toujours voulu diriger, rester à Montréal. Donc ça, c'est bon signe. Les deux s'entendent bien aussi, Gorton et Hughes. Je ne sens pas qu'il y a une jalousie entre les deux hommes. Kent Hughes prend plus souvent le plancher en matière de fonction médiatique. C'est celui qu'on voit devant les caméras, mais Jeff Gorton reste peut-être dans l'ombre, mais il fait un travail très, très important avec Kent Hughes. Puis les deux se complètent bien. T'as l'ancien agent, t'as le négociateur, t'as l'homme, si on veut, d'hockey en Jeff Gorton. Donc, ils font un bon duo.
Puis, tu sais, Gorton, avec ce qu'il avait fait, il avait amorcé une reconstruction à New York, n'a pas pu voir les fruits de ça. Là, il fait la même chose à Montréal. Est-ce que, dans sa position, tu vois toutes les pièces du casse-tête se placer? Est-ce que tu veux quitter le navire avant de voir ce que tu es en train de bâtir prendre forme?
Ouais, comme je pense que c'est un gros.
C'est ça, je pense que c'est un gros incitatif pour lui de dire « Hey, j'ai fait partie de cette reconstruction-là, je veux être là quand on va commencer à récolter
les fruits,
tout ça. Okay. » C'est ça. Puis encore une fois, je trouve ça intéressant, le 5 ans, on parlait de Nick Suzuki qui est sous contrat jusqu'en 2030, la fenêtre de 5 ans, je pense qu'elle devient de plus en plus claire du côté des Canadiens. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'être un génie pour le voir là, se dessiner, mais là, on a placé des chiffres un peu sur cette fenêtre-là. Donc, c'est quand même intéressant. D'ici 5 ans, là, je vais le dire ici, là, mais je pense qu'on va avoir quand même de longues séries à Montréal. Je pense que c'est
pas un gros... C'est ça, t'oses pas de prédire jusqu'au bout, là.
Non, mais là, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, là, mais tu sais, c'est certain Warriors. Ouais, c'est ça. on peut cogner à la porte souvent sans jamais réussir à l'ouvrir, mais on se donne toutes les chances du côté de Montréal.
Puis tu sais, je me disais, tu sais, Gorton, parce qu'il est dans l'ombre, parce que quelqu'un, il y en a des DG qui aiment ça avoir, je dis DG, des hommes de hockey qui aiment ça avoir un peu les caméras sur eux. C'est le fun à être le héros quand il y a quelque chose qui se passe, tu sais, qui fonctionne bien. Puis là, tu regardes les dernières transactions, Zachary Beauduc, tout le monde dit, bon, c'est Kent Hughes le génie, c'est Kent Hughes si, c'est... Pendant que Gorton est plus dans l'ombre. Alors que Gorton, quand tu regardes, il y a eu une promotion, il est rendu président des opérations hockey. Il n'y a pas plus haut que ça dans l'organigramme. Là. Donc, c'est vraiment lui qui est le plus haut dans l'organigramme hockey des Canadiens. Et si tu es une autre équipe, tu veux l'approcher en disant, ouais, mais tu vas avoir plus de visibilité, il faut que tu lui offres un poste en haut de ça. Il n'y en a pas. Donc, vraiment, on a fait une pierre deux coups, non seulement avec le nouveau contrat, mais avec la promotion aussi pour vraiment dire à Gorton, ou si lui, ça ne dérange pas, c'est encore mieux, là, vraiment, mais pour faire, oublie les caméras, Kent Hughes va avoir un peu plus, c'est lui qui parle français, tout ça. Il peut l'apprendre aussi, là, Jeff Gorton, ça, c'est une autre affaire, là, mais il va se retrouver vraiment plus avec, dans une situation qui est, mise à part justement cette attention-là médiatique, il ne peut pas être mieux placé dans cette organisation-là.
Non, t'as un bon point. Puis juste pour raconter une petite anecdote, je me souviens du repêchage à Vegas en 2024. On parle.
Céline.
Oui, c'est l'année ouais. Ivan Demidov et Céline. On parle toujours.
Non, l'année Céline et Ivan Demidov. Faut que tu le mettes dans le bon ordre.
On parle toujours à un dirigeant de l'équipe à la veille du premier tour. Puis dans un chic hôtel de Vegas, on avait un petit peu fait le saut en voyant que c'était Jeff Gorton qui venait nous parler. Non pas Bobrov, Martin Lapointe, étant donné que c'est un repêchage, ou surtout Kent Hughes. Puis Gorton avait dit, bien, une des raisons pourquoi je vous parle, c'est parce que moi, je suis capable de garder certaines choses secrètes, d'entretenir un petit mystère. Il dit, Ken est gentil, mais Ken, des fois, parle trop. Donc là, Gorton avait pris son rôle en disant, moi, je vais me placer devant une caméra, je vais répondre aux questions sans y répondre. Puis, ça avait été un exercice d'une dizaine de minutes. Il l'avait bien fait. Mais même, tu sais, quand il dirigeait les Rangers de New York, c'était pas celui qui cherchait l'attention médiatique ou quoi que ce soit. Il débarque à Montréal dans un univers où il ne parle pas français non plus. C'est un Américain. A pris des cours, est capable de dire quelques mots, des échanges de politesse, mais...
Comme Ivan Demidov, maintenant, parle aussi quelques mots français, semble-t-il.
Oui.
J'ai vu ça hier.
Je suis capable de dire spasiba aussi et je parle pas russe. Là. Mais tu sais, c'est un autre dossier. Là.
Non, mais écoute, d'habitude, c'est des sacres. Fait que là, bonjour les partisans, c'est bien, moi, je trouve. Là.
C'est extraordinaire. C'est probablement une des plus belles semaines de nos vies respectives.
Ben, faut pas oublier aussi qu'en Russie, tu sais, je veux dire, le français, c'est quand même une langue qui est parlée là-bas. Là. Ben, pas parlée là-bas,
enseigné,
mais qu'on apprend,
ça reste,
c'est
oui,
ça.
Exact.
Fait qu'il faut s'attendre ça aussi à ce que Demidov ait des bases un peu plus fourni que Jeff Morton.
Et j'ajouterais une plus grande ouverture à apprendre le français versus, par exemple, un Américain qui ne connaît qu'une langue. Il y a des Américains dans le Sud qui ont des justement plus au niveau de l'espagnol, tout ça, mais si t'es né au Minnesota, ça parle anglais longtemps au Minnesota. Donc, poursuivre ce que tu disais, Jeff.
Non, mais si cet aspect-là, ça peut devenir moindrement contagieux, puis que certains joueurs décident d'y aller de court, c'est possible, là. Jonathan Kovacevic, c'était pas un héros à Montréal, mais Jonathan Kovacevic, c'en est un qui avait dit « Je vais tenter de l'apprendre », mais qui l'avait fait. Il prenait des cours, qu'il y avait une enseignante qui venait chez lui. Donc, et puis Kovacevic, c'était possible d'avoir une conversation en français. Mais il ne faut jamais oublier, oui, ils jouent au hockey, mais ils ont fréquenté des écoles aussi, là, surtout les Canadiens. Là. Ils ont eu des cours de français à un certain moment dans leur vie, là. Techniquement,
fromage,
donc c'est ça, ils sont capables de dire quelques mots également. Donc,
mais
c'est un autre dossier qui peut être un petit peu plus
commence à déraper,
sensible.
Non, mais c'est pas un reproche ou rien. Là, c'est juste, c'est le fun. C'est le fun que ce petit effet boule de neige là, il y a une compréhension qui n'était pas là si tu remontes. Ouais. Au milieu des années 2000, même recule-le 10 ans, il y a une compréhension à tout de moins.
Mais cette compréhension était très, très présente dans les années 70, mais c'était un environnement où il y avait 14 joueurs francophones.
Bon, Lambert parlait pour deux en plus, fait que c'est 15 joueurs francophones.
Mais là, il y en a quand même aussi, c'est Michael Matheson, Alexandre Carrier, Zachary Bolduc, Samuel Montembeau, il y avait Samuel Blais qui était présent, qui a finalement été retranché, mais et qui se retrouve à Toronto, mais il y a quand même plus de joueurs québécois. Tant mieux s'il y a un effort, s'il y a une sensibilité.
Et je vais ajouter, et ils ne sont pas seulement de passage, parce qu'il y en a eu des joueurs québécois qui étaient seulement
pour
de passage,
plusieurs saisons.
Pour boucher un trou, puis tout ça, c'est des rouages importants de l'équipe. Là.
Exact.
Oui. On parle de communication, justement. Trouvez-vous qu'une des forces de ce duo-là, Gorton, Hughes, c'est dans la communication qu'il semble avoir avec tout le monde, avec les entraîneurs, avec les joueurs? Je lisais ton texte, JF, ou plutôt tu nous as envoyé quelques citations hier de ce que Gorton a fait. C'est Martin Saint-Louis qui a dit ça hier. Avec le gars de la sécurité, le gars qui passe le balai, il a l'air d'avoir une communication puis un respect ou un égal à égal, je peux dire, que j'ai l'impression était moins présent dans le passé.
Bien, ça, c'est sain dans une bonne organisation. J'aide à écrire la chronique de Maxime Talbot là, une fois par semaine environ. Puis Maxime racontait, il a tourné une publicité avec Cole Caulfield. Puis ça, c'est une des choses qui revenait dans le discours comme quoi c'est agréable. Il y a moyen de parler à tout le monde. Martin Saint-Louis est un entraîneur respecté, mais c'est la même chose pour Kent Hughes. Il y a David Savard aussi qui a dit, après avoir accroché ses patins, mais il y a eu des conversations franches avec Kent Hughes, avec Jeff Gorton l'an dernier. C'était probablement difficile pour des dirigeants aussi de se dire la participation aux séries, c'était loin d'être une certitude la saison dernière. Donc, est-ce qu'ils pouvaient penser à peut-être monnayer un David Savard, quelque chose, question d'obtenir un choix, regarnir une banque d'espoir? Mais ils ont eu des discussions avec Savard. Il a probablement manifesté son désir de rester jusqu'à la fin, de se retirer comme membre du Canadien.
Puis tu avais eu les Suzuki aussi qui étaient allés rentrer dans le vestiaire,
pour dire essayer de ne pas toucher à l'équipe. On veut, tu sais, David Savard, si tu décides de l'échanger pour obtenir un choix de troisième tour, c'est correct, tu garnis ta banque. Mais si tu gardes un message qui est honnête avec ton joueur, c'est peut-être bien plus payant qu'un choix de troisième tour parce que ça fait des petits dans le vestiaire puis tu gagnes beaucoup en respect en voyant qu'écoute, ici à Montréal, on est bien traité, ils font attention à nous puis ça jase aussi ça. Quand tu as une organisation qui commence à y aller de petits coups de couteau dans le dos, mais ça peut faire très, très mal sur du court terme et surtout du long terme.
Les gars, on va conclure. Fini pour les Canadiens. On va conclure l'émission. Je vais parler des Sénateurs un peu, Guillaume, vu que tu es allé les voir à Ottawa début de saison. Peut-être pas le début de saison qu'on voulait pour les Sénateurs, une victoire de défaite, mais là, ça vient de se compliquer avec la blessure de Brady Tkachuk. 4 semaines dans son cas. Tu vois ça comment, Guillaume? Toi, quand t'as parlé, c'était le match d'ouverture. J'imagine que tout le monde était bien optimiste, là, mais ça vient de changer rapidement comme scénario pour une équipe qui est sais, qui est comme les Canadiens, qui est sur la bulle là, au niveau des participations, d'une participation en série.
Ouais, c'était une soirée qui s'annonçait festive, mais finalement, après 5 minutes, Brady Tkachuk se fait propulser contre la bande par Romagnosi. Puis à partir de ce moment-là, il s'est mis à vraiment se shaker la main. On sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait, a raté plusieurs présences, pas terminé le match. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait mal du côté de Brady Tkachuk. Ça s'est confirmé. Et puis là, on se retrouve avec une équipe qui a un départ correct, une victoire, deux défaites jusqu'à maintenant. On perd Brady Tkachuk. On retrouve probablement ce soir Drake Batherson. Ça va, mais
ça va aider, ouais.
Brady Tkachuk, c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est l'âme de cette équipe-là. C'est lui qui a les deux mains sur le volant à Ottawa. On le perd pour un mois. Cette semaine, les Sénateurs ont encore 3 matchs à disputer. On en a disputé un lundi, on en a encore 3 à l'horaire. Donc, les choses pourraient rapidement déraper du côté d'Ottawa. C'est tôt, là, vous me direz, mais c'est une équipe qui a une réputation de connaître des débuts de saison, disons, en dents de scie, si c'est pas très difficile. Donc, on se retrouve encore une fois cette année dans la même dynamique. Puis là, c'est là que la profondeur va être mise à l'épreuve du côté d'Ottawa. Les questions qu'on avait en début de saison, à savoir si, justement, c'était une équipe qui avait assez de profondeur, qui avait assez de joueurs de talent pour prendre la relève pour les blessés et compagnie. Ben là, après 3 matchs, on va mettre ça en œuvre. On va voir si les Sénateurs ont réponse à ces questions-là. Mais on peut tout de suite lever quelques drapeaux du côté d'Ottawa. Avant le match de lundi, c'était le désavantage numérique, je pense, c'était à 37%. Pratiquement, chaque fois qu'on donnait un avantage numérique à l'autre équipe, on se faisait marquer. Contre les Prédateurs, on a ramené...
Au moment où on enregistre, c'est 64,3%.
Ouais, parce que
ça a progressé contre Nashville, mais on a perdu 4-1.
C'est ça, on a perdu 4-1, mais on a... Point positif dans ce match-là, ben on a tué les 5 pénalités dont on a écopé. Donc, du côté d'Ottawa, disons que c'est moins reluisant comme début de saison que celui des Canadiens. Puis, on parle à quel point ça peut changer vite. T'sais, il y a quelques semaines, on plaçait les Sénateurs en série et tout ça. Puis là, quand il y a des attentes envers une équipe, quand il y a de la pression, ben c'est pas long que... 2-3 petites choses s'accumulent, puis là, on dit « Whoop, l'équipe répond pas aux attentes », et là, ça amène des questionnements et tout. Donc, du côté d'Ottawa, va falloir redresser la barque. Quoi de mieux qu'un match contre les Sabres de Buffalo pour le faire en ce mercredi? Encore une fois, c'est un match piège, parce que si les Sénateurs l'échappent contre les Sabres de Buffalo, qui connaissent un début de saison très, très difficile, ben là, ça amène une autre couche. Puis, tu sais, ça peut déraper rapidement. Donc, du côté d'Ottawa, on veut mettre le couvercle sur la marmite, là, puis il va falloir le faire sans Brady Tkachuk. Ça va être une lourde tâche, mais voyons voir ce que cette équipe peut faire.
Surtout mais il y a des fois les équipes qui veulent prouver qu'elles peuvent gagner sans un élément clé. Mmh. C'est le cas avec Brady, c'est le capitaine. Donc, ça peut-être être une source de motivation. Mais Travis Green, pour sa blessure à une main ou un poignet ou les deux, là, c'est plus ou moins clair, a parlé d'une absence au minimum de 4 semaines. Si jamais ça doit s'étirer dans un calendrier drôlement condensé cette saison, si tu manques 4-5 semaines, mais tu te dis au revoir à 15 à 20 matchs, c'est beaucoup de hockey sans ton capitaine. C'est déjà une petite côte à surmonter en ce début de saison, puis Guillaume le rappelait, historiquement, les Sénateurs ne partent jamais en fou. Donc, tu ne veux pas revivre la même histoire puis être en rattrapage pour plusieurs semaines et plusieurs mois.
Tu sais, tu disais, Guillaume, les Sabres, c'est un match piège. Puis surtout que là, ils sont la défaite gênante de leur 3e match. Ça a sorti, le Rasmus Dahlin a dit que c'était un début de saison inacceptable. Tout le monde a... Tu sais, déjà, là, on a levé le flag à Buffalo pour dire qu'il fallait que ça change, puis tout de suite. Fait que, comme tu dis, c'est un match qui est piège. La bonne nouvelle, s'il y en a une du côté de Toronto, d'Ottawa, je regardais leur prochain match. 10 des 13 prochains adversaires, c'est des équipes qui n'ont pas fait les séries l'an dernier. Fait que tu as peut-être une chance de tenir le coup sans Brady Tkachuk, mais c'est vrai que c'est en plus que l'aile gauche n'est peut-être pas la position où on a le plus de profondeur du côté de d'Ottawa. Là, ça va
je
être
regarde comment on a rebrassé les cartes. Là. Puis, tu sais, Fabian Zetterlund était déjà dans un rôle top 6, retrouve sur le premier trio. Et sur le deuxième trio, aux côtés de David Perron, Dylan Cousins, on a Michael Amadio.
Ben, c'était à la place donc, à Zetterlund avec le retour. Zetterlund peut jouer des deux côtés. Là, donc,
exact. Ça fait que là, Zetterlund est muté sur le premier trio. Amadio se retrouve sur le deuxième. Est-ce que c'est pas la profondeur rêvée non plus? Là, c'est pas une équipe qui peut se permettre de perdre des joueurs importants comme Brady Tkachuk. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Peut-être un Claude Giroux qui peut se lever. Là, on en a pas parlé, mais il est à droite. Giroux, là, 2 points en 3 matchs depuis le début de la saison. Ça va prendre, va falloir qu'on se relève. On a un bon gardien. On a une brigade défensive qui est bonne aussi. La ligne de centre est encore solide. Je suis pas prêt, pas du tout, à enterrer les Sénateurs, mais comme vous dites, va falloir qu'on se tienne. T'sais, c'est comme JF a dit, c'est le premier coup dur dans la saison, mais il va en avoir d'autres. Donc, c'est de voir. Mais oui, Brady Tkachuk, tu te remets pas. C'est irremplaçable, si je peux dire. Je pense que c'est le terme exact. JF, Guillaume, merci d'avoir été là. On va conclure le balado là-dessus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode.
Ça fait plaisir.
Prochain épisode. Mercredi prochain, comme je disais, on va se parler tous les mercredis dorénavant ou à peu près les trois avec vous deux, là, à moins qu'on ait Hugues ou Sébastien aussi qui peuvent venir de temps en temps. On verra bien le tout. Donc, on peut vous lire.
Pas d'ailleurs, Philippe, on en a par pas... contre. Hugues, Sébastien peuvent, mais Philippe, pas, non. Pas Philippe, il est pas, surtout que maintenant, c'est en vidéo. Philippe n'est pas présentable. Philippe Landry.
Personne connaît Philippe. Oh, toi, tu grave. Fais une jambette ça. Comme ça, gratuite. Mais
on peut commencer à bâtir la légende de Philippe en ce 15 octobre. Puis ça va devenir un running gag dont on va parler jusqu'en série.
C'est ça. On va tout le temps parler de lui. Puis un jour, on dit qu'on va l'avoir.
Ouais, on ajoutera une photo un moment donné dans un des balados juste pour présenter Philippe.
tu m'as fait perdre ce que j'allais dire. Ouais, on n'en a pas parlé dans le balado, mais hier avec le Kraken, Guillaume t'a parlé avec Frédéric Gaudreau. Texte qu'on peut lire sur le site de lnh.com. Donc, comment il prend ça maintenant qu'il a été échangé. Les gens, allez lire ça. C'est le fun de lire un peu. Gaudreau, qui est une belle histoire, hein, qui n'a jamais été repêché, puis là, qui arrive maintenant. Dans notre tête, c'est encore le jeune qui n'a pas été repêché, puis soudainement, c'est le vétéran qui doit guider les jeunes chez Kraken. C'est pour ça qu'il était acquis. Donc, allez lire ça, ça vaut la peine. Puis c'est pas mal ça, JF, toi aussi, on peut lire tes textes sur le site dnh.com. Chers auditeurs, si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur les réseaux sociaux qui défilent en bas depuis tantôt et suivez-nous sur Spotify, Apple où vous nous écoutez. Sinon sur YouTube plutôt si vous voulez nous voir vidéo. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.